Et oui, à passer le délai, je vous rappelle que nous vous radions de la liste de nos collaborateurs et que vous devrez rembourser l'avance sur les ventes qu'on vous verse mensuellement.
Si j'accepte la formation que vous m'avez proposée la dernière fois, est-ce que j'ai un délai supplémentaire?
Non, là c'est trop tard, vous avez refusé et puis en plus vous êtes au contraire insolent, hein, faut le dire.
Vous m'avez proposé une formation pour écrire des recettes de cuisine.
Pour écrire des recettes de cuisine alsaciennes, s'il vous plaît.
Je m'en fous de savoir écrire une recette de choucroute traditionnelle.
Écoutez, ça aurait pu vous aider et structurer votre manière d'écrire. Hein. Puis, on sait jamais, hein, vous qui appréciez la musique punk, comme je le dis sur votre CV, peut-être qu'un jour vous serez amené à écrire un livre sur le plastique
Bertrand. Je vois pas le rapport entre le plastique Bertrand et la choucroute alsacienne. Attendez. Ne me dites pas que plastique est un fétichiste du chou fermenté.
N'importe quoi. Plastique Bertrand est originaire de Colmar. Si un jour vous écrivez une biographie sur lui, vous pourrez lui faire des petits plats chez lui. Comme ça, il sortira en confiance et il se livrera plus facilement.
Ah ouais, carrément. Je vais me lancer dans une formation pour apprendre à rédiger des recettes de cuisine alsacienne afin de pouvoir un jour écrire la biographie de Plastique Bertrand. C'est bien ça?
Indirectement, oui.
Et indirectement, vous vous foutez de ma gueule.
Écoutez, il y a bien écrit l'écriture de Zinpunk hein, sur votre CV. Là.
Exact. Mais dans la rubrique passion, centre d'intérêt. Depuis quand Pôle Édition propose des jobs en rapport avec les centres d'intérêt des gens?
Écoutez, ne recommencez pas à être impertinent, hein, sinon je vous radie sur le champ. Écoutez, vous avez de la chance, une personne s'est désistée, la formation est à 300 km de chez vous.
Lors de notre premier rendez-vous, je vous ai indiqué que je n'étais pas mobile. Hors de question d'aller bosser à 300 km de chez moi.
Vous avez raison, pas plus, mais la loi travail, c'est passé par là.
Hein. Merde, bon, je vous envoie un texte dans la journée.
Voilà, on va vous lire des extraits du texte envoyé dans la journée. Avec, première aventure, l'Alain Prost du Transpas.
Yeah, génial. Encore un contrat précaire, un CDD de 3 semaines au rayon liquide d'un grand supermarché. Nous sommes en septembre et c'est la période des foires au vin à la peau. Le magasin a besoin d'une main-d'œuvre d'appoint pour gérer tout ce joyeux bordel.
Les premiers jours sont éprouvants. Nous n'arrêtons pas de faire des allers-retours entre la réserve et l'immense chapiteau sur le parking monté pour l'occasion. Les deux chefs de rayon sont véritables enfoirés. Il y a du mépris dans leurs yeux. Ils ne te parlent pas, ils crient. Ils nous détestent pour des raisons infectes. Nous ne sommes pas des employés du magasin, nous sommes des petites merdes accrochées à leur base pour 3 semaines.
Ce qui est certain, c'est que, mis à part le Big Boss, nous sommes toutes et tous la
petite merde
de quelqu'un. Par exemple, là, nous concernant les CDD embauchés pour la foire au vin, nous sommes les
petites merdes
de tout le monde. Il n'y a pas plus bas dans l'échelle, donc pas moyen d'avoir nos propres
petites merdes.
Le pouvoir ridicule pour les deux connards de chef d'équipe du rayon liquide leur permet d'évacuer leur frustration et leur colère d'être considérés comme des
petites merdes
par tous les autres d'en haut dans les bureaux. Il faut vivre aux autres ce que eux-mêmes vivent. Si les gens pouvaient reproduire des trucs cool aussi souvent que des conneries, je crois qu'on pourrait peut-être s'en sortir un jour. Et je ne sais pas si t'as fait gaffe, mais je dois battre le record d'utilisation de l'expression
petite merde
dans un paragraphe.
La foire ne commence que le lendemain. Mais les deux cocos sont hyper tendus. Je me demande pourquoi ils sont fraillés comme des pénicules. Costard, mocassin chez Pistris Angor. J'apprends que la veille de la foire au vin, le magasin organise une petite réception et une vente privée pour une clientèle triée sur le vol.
Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de goûter moi aussi à du super vin. Puisque c'est comme ça et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais me faire ma propre dégustation. J'avais déjà caché une bouteille dans la réserve, dans l'idée de l'embarquer. Attention, hein, un grand cru, pas de la merde. Hein. Si à se faire choper, autant que ce soit avec un simple million plutôt qu'avec une bouteille en plastoc, la villageoise, car la sanction sera de toute façon la même. J'ai hésité à mettre les autres dans la confidence, hein, mais mes expériences passées m'ont montré qu'on ne pouvait faire confiance à personne.
En fin d'après-midi, le chapiteau se prépare à accueillir nos copains et copines de la Jet Set. Quand on y pense, c'est vraiment n'importe quoi cette histoire de vente privée. Ces gens-là n'ont pas besoin de se pointer sous le chapiteau merdique d'un supermarché pour acheter du pinard. Ils en achètent quand ils veulent et n'importe où. C'est plus histoire de se montrer, de se dire qu'on appartient à une classe supérieure, celle qui a été invitée à cette vente. Les bourgeois ont conscience de classe, tandis que nous, que dalle. Parce que si on en avait un soupçon de conscience de classe, on aurait brûlé le chapiteau et piqué toutes les bouteilles. J'imagine toutes sortes de plans pour cette sauterie qui tourne au fiasco. Qui crève, putain.
Bon, mon vin, je l'ai dégusté tout seul, bien planqué dans la réserve. Et Saint-Émilion, 80 boules la bouteille, au goulot.
C'est pas la classe à Dallas.
Depuis le premier jour, je remarque un mec qui monte sur son transpalette comme sur une trottinette. Après plusieurs observations, je me décide à essayer aussi. Et pour la première fois de ma vie, je suis de quelque chose. Je manipule le transpal comme un chef. Il est temps de se confronter à l'autostick. Quand je vais à sa rencontre pour lui proposer une course de transpalette, le mec est fini en deux de rien. Il me traite de taré et refuse. Il a peur de se faire choper par les caméras du moment. Merde, les caméras, j'y avais même pas pensé. Son refus me paraît compréhensible. En me renseignant auprès d'un gars de la sécu, j'apprends qu'il n'y a pas de caméra qui surveille une partie, mais seulement l'entrée du magasin. Let's go.
Le parcours a de la gueule. Il est semé d'embûches, des virages et des slaloms blindés de caddies en guise de clos. Nous avons besoin d'une personne neutre pour nous chronométrer. On s'est chambré toute la matinée et du coup on se fait pas confiance pour le chronométrage. Sur le parking, je repère un client assez jeune, à l'air cool.
S'il vous plaît.
Oui.
Vous avez des minutes? On aurait besoin de quelqu'un pour nous chronométrer. Avec mon pote, en fait, on va se faire une petite course de transpalette. Il y en a pas pour longtemps.
Le type a l'air choqué, mais il accepte. Je commence. Je suis à fond. Quelle rigolade, je franchis la ligne d'arrivée, tout est soufflé.
Alors, combien?
1 minute 12.
Ouais, c'est pas mal.
Il me jette le chronomètre à la gueule. Hein.
J'espère que vous irez aussi vite pour me rejoindre dans mon bureau. Je suis le directeur adjoint du magasin.
Bordel, comment j'aurais pu deviner que ce mec-là était le directeur adjoint du magasin? Il paye pas de mine, l'enfoiré. Il est bien pervers. Il m'a laissé descendre pour mieux ménager son effet. Au loin, mon pote agite les bras. Il attend le top départ. Je lui fais des grands signes avec les mains pour lui dire de se barrer, mais il ne comprend rien. Et le voilà lancé sur le parcours. La situation prend un caractère de plus en plus débile. Mon pote qui dévale la piste. Le directeur déstabilisé et de plus en plus sur axe. Et moi qui chronomètre comme on doit discret.
Le directeur adjoint se la joue paternaliste. Il passe une heure à nous faire la morale, mais je l'ai plus depuis longtemps. J'ai gagné la course. Le reste, je m'en fous. Avec des trémolos dans la voix, il nous fixe et nous dit.
Je vous laisse une seconde chance. Un nouveau départ dans la vie.
Ok, faisons comme ça.
Un nouveau départ dans la vie, il nous a pris pour des délinquants à l'insertion. Peut-être on barrait le type. Nous remercions notre sauveur et quittons son bureau au bord de la crise de mer. Avec mon pote, on se fait la promesse de se refaire une course si jamais on se recroise dans un magasin. Je ne l'ai jamais revu, mais je me tiens prêt.
Maintenant, deux histoires qui parlent de poissons. La première se passe dans un supermarché. C'est le rayon poissonnerie.
Que penses-tu du rayon poissonnerie?
Me demande le boss du supermarché.
Bah ça pue, c'est dégueu, je pourrais jamais faire ça.
Super, je savais que je peux compter sur toi.
Comptez sur moi, pourquoi?
Bah, écoute, il manque Sylvie, elle est en arrêt jusqu'à samedi, tu vas la remplacer.
Bah
écoute, on t'a billet. Hein?
Hein?
Tout à l'heure.
Hein? Quoi?
Hein? Trop fort le mec, il m'a pris pour un con. C'est réglo, mais il va me payer. La première cliente débarque.
Je voudrais du merlan, s'il vous plaît.
Bien sûr, madame. Pouvez-vous juste me dire où se trouve ce poisson?
Vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas poissonnier?
Non, non.
Ah, c'est celui-ci, vous pouvez me faire défiler?
Bah non. Par contre, je vous propose de vous en mettre 4 pour le prix d'un, ça vous tente?
Vous pouvez faire ça?
Oh, je peux tout faire. C'est vous ou c'est non?
Bah, allez-y.
Il avoue que tout là, il se démerde. Je ne fais quasiment rien payer aux clients. 1 kilo de crevettes pour le prix de 100 grammes, 1 kilo de cabillaud pour le prix du lait noir, etc. Les clients s'étaient passé le mot, et mon rayon ne désemplissait pas. C'est fou comme d'un coup, on devient sympathique à leurs yeux. Le cirque a continué comme ça pendant 2 jours. Et je me suis fait repérer quand j'ai laissé un SDF manger des crevettes gratos.
Tu vas laisser faire encore longtemps?
Le client a le droit de goûter, non?
Oui, mais pas une vingtaine de crevettes non plus.
Le client a le droit. Faut le satisfaire au mieux, n'est-ce pas? Le monsieur a l'air satisfait de manger des crevettes à l'œil. Je remplis parfaitement le cahier des charges du magasin.
Allez, allez, suivez-moi dans mon bureau.
La deuxième histoire de poisson se passe dans une usine. C'est la brandade de morue. Cette fois-ci, je suis dans une toute petite salle. Au milieu, un broyeur qui fout un bordel pas possible. Sur les côtés, des palettes avec des trucs rectangles de couleur marron clair empilées dessus. Un mec me file un casque de chantier et me fait entrer. Je vois une personne en train de mettre les gros machins rectangles dans un broyeur. La merde broyée tombe dans un gros bac en plastoc. Le responsable d'équipe me parle et agite les bras. Je ne comprends strictement rien à ce qu'il me raconte. Il me dit qu'il doit être super débile pour ne pas avoir pensé à me parler au calme avant de rentrer dans cette salle assourdissante. Pendant 5 minutes, il m'explique le tas et la situation me paraît complètement absurde. Je lui fais OK avec le pouce et il se casse. J'ai rien compris, évidemment. Je remplace la personne qui travaillait et c'est parti, mon futur. C'est pas compliqué. Je fous ces gros rectangles congelés. Ah oui, les gros rectangles congelés tout marron, c'est du poisson. Donc je fous les gros rectangles congelés dans le broyeur et j'attends qu'une personne vienne récupérer le bac de poisson broyé et m'en mette un vide. Pendant une heure, ça se passe bien. C'est chiant et bruyant, mais je tiens le coup. Une personne débarque avec les palettes de poisson pour me réapprovisionner. Elle me fait signe de venir à l'extérieur de la salle.
Pourquoi la palette de morue est plus avancée que la palette de cola?
Pourquoi quoi?
Pourquoi la palette de morue est plus avancée que la palette de cola?
Morue, colin. Oh, c'est la terre! Je vois de quoi tu parles.
Dans un bac, tu dois broyer 3 rectangles de morue et 7 de cola.
Comment je sais, moi, de toute façon, les colins et les morues. Tous ces putains de rectangles sont de la même couleur.
À ton avis, pourquoi on met des palettes de poisson à droite et d'autres à gauche? Pour ne pas te tromper, tu commences par prendre 7 colins qui se trouvent à ta droite quand tu es en face du broyeur. Et tu enlèves la fine couche de carton et tu les broies. Ensuite, tu fais la même chose avec 3 de morue. Comme ça, tu sais que tu as.
Putain! La fine couche de bordel, j'ai broyé les poissons avec leur emballage. Le chef d'équipe a dû me dire tout ça, mais ce con a attendu qu'on soit dans un environnement hyper bruyant pour me l'expliquer. L'emballage est tellement incrusté à cause du gel qu'on n'y voit que du feu. De toute façon, quand j'ai essayé de virer l'emballage, il restait toujours des parties où le carton était indécollable. Ces histoires de collants à la con et de morue de merde commence à me gonfler. J'appelle ça du poisson. Des gros rectangles tout blancs. Enfin, marron pour moi. Puis blanc avec des taches marron par la suite. Eh ben super, la brandade de morue. 70% de la canne, c'est pas de la morue. Il me demande depuis combien de temps je prends les poissons au hasard. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que en plus de mettre les rectangles de poisson au pif et de devoir virer l'emballage, je n'ai jamais respecté les 10 rectangles par bac. Il panique, parce que certains bacs sont déjà entrés dans la chaîne de production. Je me demande comment le gars qui venait en chercher les bacs a pu ne pas remarquer que le contenu était marron au lieu d'être blanc. Je crois bien qu'il s'en foutait royal, et il a bien raison. Monsieur Palette de Poisson me remontre du doigt quelle est la palette de morue et quelle est la palette de colin, et il se barre. Je continue mon tas de broyage de poissons rectangles et la chaîne de production est arrêtée pour vérification. C'est laquelle déjà, la palette de morue? J'ai un doute. Je sais plus. Merde.
Donc maintenant, retour au supermarché, cette fois-ci dans le rayon 20.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je souhaiterais faire une commande et vous demander conseil.
Je vous écoute.
Alors, il me faut un vin pour accompagner une viande rouge.
Comme de la bière?
Pardon?
Bah, de la bière, genre Heineken?
Je veux un vin.
Prenez du blanc.
Du blanc avec de la viande rouge.
Ou de la bière.
Bon, laissez tomber. Avec la pièce montée, il me faut un vin pétillant sucré, non?
Exact. Prenez de la bière.
Quelques minutes plus tard, le chef du rayon rappelle.
Une cliente s'est plainte à l'accueil.
Ah, de quoi?
Tu t'es montré impoli, te demander des conseils pour du vin et tu laisses te prendre la bière.
Et?
Je veux du vin.
Elle me demande conseil. Je lui réponds. Avec de la viande rouge, Ben, je bois de la bière. Et avec un gâteau, je bois aussi de la bière. Et puis, quand on vient m'emmerder, je bois deux fois plus de bière. Vous m'avez foutu dans les bains. Je vous ai prévenu que je n'y connaissais rien, alors venez pas faire les tenues.
Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé?
Pourquoi faire?
Pour renseigner la cliente, tu fais exprès ou quoi?
Non, mais j'évite ce genre d'initiative.
Ça fait aussi partie de ton boulot.
Génial.
Ok, je vois. Tu vas rester dans les softs, hein, c'est préférable pour tout.
Maintenant, un petit détour par Pôle emploi pour le bilan de compétences.
L'efficace conseiller du Pôle emploi m'a tellement fait chier que je finis par accepter un bilan de compétences. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que ça durerait une journée. En réalité, le bordel dure 12 heures, réparti sur 8 séances d'une heure et demie. Ah, quel blaireau d'avoir accepté!
Première séance, entretien, diagnostic.
Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Ah, je suis ici parce que mon efficace conseiller Pôle emploi n'arrêtait pas de m'emmerder avec le bilan de compétences, donc ce qui m'a motivé, le fait qu'il me lâche pas là. Plus on avance dans le diagnostic, et plus la gueule de madame compétences s'allonge. Elle me donne un gros classeur des interpellaires pour ranger les différentes feuilles qui s'accumuleront durant ces 8 séances. Et elle m'annonce que j'aurai des devoirs à faire. Je me demande si elle se fout de ma gueule. Et apparemment...
Deuxième séance. Identification et formalisation des compétences.
J'ai déjà nommé le classeur. Alors, non, il y en a un autre. Hein. Une heure et demie d'entretien, franchement, c'est pas trop pour déceler les compétences cachées.
Troisième séance. Explication des ressources personnelles.
Bah, j'ai encore perdu de classeur. Cette fois-ci, elle lâche l'affaire. Alors là, je suis seul dans une salle. Alors, je dois remplir plusieurs questionnaires. Donc, il y a quatre réponses au choix. Peu important, pas important, important, très important. Morceau choisi.
Un patron qui vous respecte et vous parle correctement, est-ce pour vous? Pas important, peu important, important, très important.
C'est quoi? Un patron qui vous respecte? Non, ça n'existe pas.
Un salaire qui vous permet de vivre dignement, est-ce pour vous? Pas important,
peu important, important, très important. Pas important, du moment que j'ai des cartons et que personne ne tourne ma tête devant la
gare. Préférez-vous travailler avec des collègues coopérants? Pas important, peu important, important, très important.
Non, non, pas important non plus. J'adore être entouré de gens complètement à côté de la plaque. Et si possible, un peu alcoolo. Comme ça, on passe notre temps à picoler en bouche.
Quatrième séance. Exploration de pistes professionnelles.
Madame Compétence m'annonce que les résultats sont pas terribles et qu'il y a un gros problème. Il montre que je ne supporte aucune forme de hiérarchie. Elle m'explique même que je ne passe pas loin de la sociale. Apparemment, mes valeurs professionnelles sont au plus bas. Pour me rassurer, mais surtout pour se rassurer elle, parce que moi, j'en ai rien à la foutre, elle me dit que ces résultats graphiques ne sont pas très fiables pour certaines personnes. Je lui propose du coup d'aller voir une collègue bière dehors, lui montrant mon sac d'armée de canettes. Déprime encore.
Troisième séance. Identification des acquis mobilisables.
Me voilà de nouveau seul dans une salle, mais cette fois-ci je suis devant un ordinateur. Je dois me balader sur un outil élaboré par le gouvernement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas foulés. En gros, je dois cliquer sur des fiches métiers. Chapeau les mecs. Des heures de brainstorming pour sortir un outil linéaire qu'on n'utilise même plus en existant. Madame Compétence souhaite que je tire au moins 3 fiches métiers. Bon, j'en choisis donc 3. Puis pour les sortir d'imprimante, je dois définir mon identité. Ah, pour déconner, j'inscris un truc de Pascal Moustache. Je suis de culture imprimée. Le problème, c'est que. Merde, je n'ai aucune imprimante. Où sont mes feuilles? Je sors de la salle pour rejoindre le bureau de Madame Compétence. Je m'assois et au même moment, nous entendons un mec gueuler dans le couloir.
Décidez
pas
pour
le t'imprimer,
on
ne passe
la
moustache.
C'est quoi ce délire?
La moustache, s'il vous plaît. Putain, c'est pas possible. Je me lève et rejoins le mec pour récupérer mes feuilles. De retour au bureau, Madame Compétence me regarde avec des yeux d'ahuri. Pascal, moustache est imprimé immense en haut de chaque fiche métier. Je vais appeler tout le monde.
Vous appelez Pascal
Moustache? Ah non, enfin du monde. J'aurais bien aimé. Mais c'est mon nom d'emprunt pour éviter les paparazzis. Ah, je voyais bien, elle avait envie de se marrer. On va partir à la 6e séance, Madame Compétence m'a n'avait plus rien à foutre. On va aller tout et de rien, bon voilà. Par contre, toujours pas moins, mais si on fait une bonne idée de l'ordre. Mais on a quand même fini par trouver un métier qui me conviendrait.
Animateur socio-culturel.
T'as vu ça mon pote? Ça rigole pas. Après, avec quel financement? Quels sont les outils nécessaires? À qui doit-on s'adresser? Autant de questions qui resteront sans réponse, tellement je m'en fous et qu'elle a les voix du suicide. The Reaper is back. Suite et fin.
La communauté de communes me rappelle quelques mois après mon premier contrat. Me propose un CDD de 2 semaines pendant la période des vacances de Noël. Première fois de ma vie que quelqu'un m'appelle pour que je revienne bosser dans sa boîte. 6 heures. Je débarque dans les vestiaires, je ne connais aucun des deux gars avec qui j'avais taffé quelques mois auparavant. Le chauffeur s'appelle Pierre. Il n'est pas tout jeune et a la particularité d'avoir une obsession pour les Citroën Picasso. C'est bien simple, dès qu'il aperçoit une Citroën Picasso, il se met à crier « Il me la faut, putain, il me la faut, putain !» Le collègue qui partagera le cul du camion avec moi s'appelle Adolphe. Ouais, avec un F à la fin, comme on le dirait. Je n'ose pas lui demander si ses parents étaient des nostalgiques du troisième Reich. Nous vidons la première poubelle et Adolphe se met à gueuler « Ça charge !» Je suis un peu surpris qu'il se mette à s'exciter comme ça. Pendant une heure, il peut rester silencieux, puis d'un coup ça lui reprend « Ça charge !» On chargeait, on chargeait. Les poubelles étaient toutes pleines et pas moyen de faire l'impasse sur certaines bornes. Le lendemain, je demande à Adolphe s'il peut dire « ça discharge » au lieu de « ça charge ». Je ne comprends pas Marquette et j'ai la flemme de lui expliquer. Je lui dis juste que s'il le fait, je l'accompagnerai avec plaisir. La seconde journée fut donc rythmée par des magnifiques « ça discharge ». Le chauffeur nous fait des plans à la con du genre freiner soudainement parce qu'il a vu une Citroën Picasso. J'en ai vraiment marre de ce mec. Avec Adolphe, on a beau faire gaffe, à chaque fois qu'il met un coup de patin, on se cogne assez violemment la tête contre les poignées du camion. La fin de journée se termine en apothéose avec un gros «
ça discharge !»
accompagné d'un excellent
« il me la fout putain, il me la fout putain !»
Adolphe m'annonce qu'il ne souhaite plus dire « ça discharge !» Merde, c'était plutôt cool de gueuler ça qu'à peur. Retour donc au bon vieux
« ça charge !»
La matinée se déroule tranquillou, mais j'en peux plus, chauffeur. Je me dis que si ça continue, nous allons finir dans la benne. Adolphe m'appelle. Fais gaffe, en haut de cette rue, tu dois mettre les freins au conteneur. Sinon, ils vont descendre la rue à fond. C'est dangereux, ok?
Ok.
On vide les deux conteneurs en question. On les remet à leur place, mais j'arrive pas à appuyer sur la petite pédale pour enclencher le frein. L'autre con chauffeur commence à partir. Je fais des signes pour lui faire comprendre que je suis emmerdé avec ces putains de freins de merde, mais il s'en fout et continue à s'éloigner. Je pète un câble. Je cale tant bien que mal la grosse poubelle à l'aide d'un bout de bois trouvé par terre, et je fonce voir Pierre-Yves pour lui dire que c'est qu'un gros connard. On s'engueule, et à côté il y a l'autre con d'Adolphe qui se roule une clope en gueulant «
ça charge !»
Putain, c'est pas possible, je suis taré là, c'est une putain de caméra cachée. Je me retourne. La poubelle est plus là. Disparue des radars. Elle a déballé la rue et s'est encastrée une voiture garée en plus. Heureusement qu'elle était vide et que personne ne s'est prise sur la gueule. Nous descendons la rue pour récupérer la poubelle. Cet épisode va définitivement clore le peu de relations que j'avais avec Pierre. La poubelle s'est mangée. Une Citroën. Mis à part un phare pété, la caisse n'a rien. Laissons un mot sur le pare-brise. Invitant le proprio de la caisse à appeler la communauté de communes pour régler le problème. Pierre-Yves est fou de rage. Il bégaye et bave.
Tu te rends compte que tu viens de péter le phare d'une Picasso?
Ce matin, il pleut sans discontinuer. Les deux autres sont super équipés, en paire, bottes, tout barbe. N'en trouve rien pour moi. Je demande à Pierre-Yves de m'amener voir la responsable pour choper des affaires de prendre. La responsable me promet d'avoir le nécessaire dans 2 heures maxi. Je suis super énervé de devoir taffer pendant 2 heures dans cette condition. 2 heures après, nous revenons chercher les freins. Je suis trempé de chez trempé. La responsable me regarde et se met à rigoler.
Oh là là, excusez-moi, je vous avais oublié. Reviens en début d'après-midi plutôt.
Si t'es de ma gueule.
Pas du tout, pourquoi?
Pourquoi?
flotte à fond dehors. Je vous demande des affaires de pluie, qui, soit dit en passant, auraient dû être dans mon casier des premiers jours, et vous me demandez pourquoi je suis à bout. Ok, je me casse, vous me faites tous chier. Ciao. Les deux autres me ramènent à ma voiture. Adolphe essaye de me dissuader, de me casser, mais c'est trop tard. Je descends du camion et leur souhaite bon courage. J'arrive devant ma bagnole, je réalise que j'ai pas les clés. Ces putains de clés sont dans mon sac que j'ai oublié dans la cabine du camion. J'ai dû attendre plus de 5 heures sous la flotte qu'ils reviennent. Journée de merde.
Voilà.
Et voilà.
Bravo.